RFI 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Le journal, Sébastien Duhamel, bonjour.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Et la une, ce matin, après les manifestations et la répression, la solidarité au Kenya, un élan sur Internet avec des cagnottes de soutien aux victimes et à leurs familles. Dans l'est de la RDC, la ville de Kanyabayonga tombait hier sous la coupe des rebelles du M23. Et cela au terme d'une journée d'affrontements intenses avec l'armée congolaise. Une affaire qui n'a peut-être pas dit son dernier mot, l'affaire Glencore, le géant des matières premières déjà condamné pour corruption. Mais la justice britannique souhaite désormais poursuivre certains de ses employés. Au Gabon, la mise au point de la ministre de la réforme des institutions, Muriel Minkoué. Face à la presse, elle a répondu aux critiques visant les recommandations du dialogue national. Le départ de l'ambassadeur soudanais au Tchad. Il a quitté N'Djamena le mois dernier, on l'apprend seulement. Officiellement, il ne s'agit pas d'un rappel, mais on analysera tout de même des relations tendues entre les deux pays. Et puis, focus sur la nouvelle Assemblée nationale de Madagascar. On verra que les députés indépendants y occupent une large place. Ils sont très courtisés par les différents bords politiques. La solidarité, donc, désormais, au Kenya, après les manifestations et la répression qui ont fait au moins 23 morts et 300 blessés à travers le pays sur la seule journée de mardi, les réseaux sociaux relaient à présent des initiatives de soutien aux victimes et à leurs familles. C'est d'ailleurs sur Internet que la contestation s'était largement organisée contre la loi de finances dont le retrait a été annoncé depuis. Alors, sur Internet, toujours, les cagnottes lancées rencontrent un certains succès également, Alban Tiroir.
Plus de 25 millions de shillings kenyans, soit l'équivalent de 180 000 euros, c'est le montant qui avait déjà été récolté vendredi après-midi sur une cagnotte en ligne grâce à plus de 30 000 donateurs. Intitulée « Prendre soin des blessés », la cagnotte a été lancée pour soutenir les victimes des violences policières lors des manifestations. Plusieurs milliers se sont mobilisés pour défendre la démocratie. Assurons-nous que ceux qui ont été injustement blessés puissent recevoir des soins médicaux, peut-on lire sur la page internet. Derrière cette initiative, plusieurs militants, comme la journaliste Anifa Adam, sur X, elle explique, l'argent vise à payer les frais médicaux des blessés. Un premier versement à un hôpital de Nairobi a déjà été fait, affirme-t-elle, preuve du paiement à l'appui. Une précédente cagnotte a aussi permis d'envoyer l'équivalent d'un peu plus de 14 000 euros au total aux familles de Rex et Evans, les deux premières victimes tuées lors des premières manifestations la semaine dernière. Ici encore, les récépissés sont rendus publics par Anifa Adan sur X. L'association des psychologues et thérapeutes du Kenya, une organisation qui rassemble les membres de la profession, a aussi offert son soutien. Elle a annoncé l'ouverture d'une permanence téléphonique pour ceux dans le besoin d'un suivi psychologique. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Une prise stratégique dans l'est de la RDC, à une centaine de kilomètres du chef-lieu du Nord Kivu, Goma. La ville de Kanyabayonga était le théâtre d'intenses affrontements qui ont de nouveau opposé l'armée congolaise épaulée par des groupes armés locaux aux rebelles du M23, soutenus quant à eux par le Rwanda. Le bilan fait état d'au moins 2 civils tués et 5 blessés. Et au terme de cette journée de combat, l'armée a finalement perdu le contrôle de la ville héritier Baraka.
Considérée comme dernier verrou pour atteindre le nord de la province du Nord Kivu, la ville de Kanyabayonga est passée dans les mains des rebelles du M23. C'est dans l'après-midi que les rebelles ont pris la localité après une journée de violents affrontements. Les combattants du M23 viennent d'entrer au centre de Kanyabayonga, je viens de les voir à mes yeux, a déclaré un habitat sous couvert d'anonymat. Information confirmée par la société civile du territoire de Lubero. La veille, les rebelles ont réussi à prendre la localité de Miriki, Kimaka, faisant ainsi leur entrée dans les territoires de Lubero. Ces affrontements ont occasionné un nouvel afflux de déplacés selon l'administrateur militaire du territoire de Lubero, le colonel Alekiewa vers le nord à Kirumba qui n'a pas précisé le nombre. La prise de Kanyabayonga, ville de plus de 60 000 habitants, ouvre la voie facile vers les villes de Butembo et Beni au nord, poumons commerciaux de la région. Héritier Baraka, Goma, RFI.
Les suites à présent de la tentaculaire affaire Glencore. Un scandale à grande échelle pour lequel le géant des matières premières a été condamné en 2022 par les justices américaines et britanniques. La multinationale avait alors reconnu la corruption massive de hauts fonctionnaires africains durant des années en échange de contrats ou d'avantages divers. La société avait donc écopé d'amendes records pour cela. Eh bien, désormais, Amélie Tullet, à Londres, l'équivalent du parquet financier souhaite poursuivre plusieurs employés de Glencore.
Après l'entreprise, les individus. Le Serious Fraud Office du Royaume-Uni espère annoncer prochainement une série d'accusations contre d'anciens salariés de Glencore. L'autorité judiciaire britannique, spécialisée dans la lutte contre la fraude, la corruption et les pots de vin de haut niveau, a adressé courant juin un courrier à la procureure générale à Londres pour demander son accord et pouvoir ensuite porter plainte contre les individus soupçonnés d'avoir participé aux pratiques de corruption reconnues par la société Glencore. Une perspective qui doit en faire paniquer plus d'un au Cameroun, commente l'ancien bâtonnier Akere Mouna.
Si on commence maintenant le procès contre les individus à Londres, forcément on va demander, mais vous avez donné à qui ? C'est très probable que, n'est-ce pas, les noms sortent.
Des noms et des sanctions au Cameroun, c'est ce pourquoi milite Akere Mouna. Il a déposé 3 plaintes auprès des juridictions où se trouvent les sièges de Glencore Cameroun, de la Société Nationale de Raffinage Sonara et de la Société Nationale des Hydrocarbures SNH, sans qu'il y ait de suite à ce jour. Au Cameroun, selon le Serious Fraud Office du Royaume-Uni, entre 2012 et 2015, plus de 13 millions de dollars en espèces transportés périodiquement à bord de jets privés ont été utilisés pour corrompre les responsables des sociétés pétrolière et gazière du pays.
Une affaire Glencore, Amélie Tulé, qui concerne plusieurs autres pays, également en Afrique, la RDC, le Nigeria ou le Soudan du Sud notamment. Et à ce propos, plusieurs articles complets sont à retrouver sur notre site internet rfi.fr. Les déboires de Samuel Eto'o. Après le bras de fer médiatisé avec le ministère camerounais des sports, le patron de la FECAFOOT, le patron de la fédération de football est visé par des accusations de matchs truqués qui pourraient entraîner une suspension à vie de toute activité liée au football. Alors cette semaine, mardi et mercredi au Caire en Égypte, Samuel Eto'o s'est défendu. Il a plaidé non coupable devant le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. Et ce dossier, on en parle d'ailleurs ce matin avec notre invité, Maître Florian Mbayen, avocat camerounais qui répondra à Christophe Boisbouvier, entretien après ce journal. Elle a voulu mettre les points sur les i au Gabon. En conférence de presse, la ministre de la Réforme des Institutions, Muriel Minkoué, a répondu à plusieurs députés et leaders politiques qui critiquent vertement les recommandations du dialogue national organisé par les autorités de transition en avril dernier. Alors face aux journalistes, la ministre a expliqué que le gouvernement ne ferait pas machine arrière. À Libreville, Yves-Laurent Goma.
Face à la presse, la ministre Muriel Minkoué a abordé tous les sujets qui fâchent, à commencer par celui de la rétrocession de l'organisation des futures élections au ministère de l'Intérieur, une décision très critiquée par des députés et leaders politiques.
D'autres pays, comme le Sénégal, les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur. Nous avons tous vu le changement. Le président qui a organisé les élections avec son ministre de l'Intérieur a bien été dégoûté.
Le premier scrutin qui ouvrira le bal est le référendum constitutionnel prévu dans 6 mois au maximum. Le projet de constitution est déjà prêt, martèle Muriel Minkoué.
Le comité constitutionnel national est prêt à rendre au président le travail qu'il a demandé.
Le dialogue a par ailleurs recommandé la suspension de tous les partis politiques et de les regrouper au sein de 4 grands groupes. Aucune décision à ce propos ne sera prise avant le référendum constitutionnel, a prévenu la ministre.
Lorsque la constitution sera votée, nous allons prendre des lois qui réorganisent la vie politique de notre pays avec des nouveaux critères.
Sur la question sensible de la nationalité, revenue au cœur du débat politique depuis les conclusions du dialogue, la ministre demande de dépassionner les débats et assure que les autorités ne mènent pas une politique d'exclusion. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Jour de vote en Mauritanie, élection présidentielle aujourd'hui qui met en prise 7 candidats, dont le président sortant Mohamed Ould El Razouani, un peu plus d'1 900 000 électeurs appelés aux urnes pour les départager. Alors que les experts de l'ONU alertent une nouvelle fois sur la situation humanitaire au Soudan, une actualité en marge de la guerre civile. L'ambassadeur du Soudan au Tchad a quitté N'Djamena il y a un mois. C'est ce qu'indique un courrier adressé le mois dernier par l'ambassadeur soudanais au ministère des Affaires étrangères tchadien. Mais il n'est parvenu qu'hier, vendredi, officiellement. Il ne s'agit pas ici d'un rappel, mais d'un départ provisoire pour une simple mission au Soudan. Mais si les autorités tchadiennes démentent toute escalade, Guilhem Fabry, il faut rappeler que l'armée du général Al-Bourhan accuse régulièrement le Tchad de soutenir les forces de soutien rapide du général Hemeti.
Le courrier de l'ambassade soudanaise n'est parvenu qu'hier aux autorités tchadiennes selon une source gouvernementale. L'ambassadeur de la République du Soudan au Tchad, indique le courrier, n'est plus en poste à N'Djamena depuis le 28 mai. La raison, Osman Mohamed Younis réalise une mission officielle dans son pays, sans plus de précision. En son absence, le chargé d'affaires de l'ambassade assure l'intérim. Du côté des autorités tchadiennes, une bonne source affirme que ce départ est lié à un problème interne soudanais et qu'il ne faut y voir aucune escalade entre les deux pays. Mais selon une source diplomatique citée par la presse soudanaise, un rapport détaillé sur la sécurité des frontières a été officiellement soumis par le Soudan au gouvernement tchadien. L'armée du général Al-Burhan soupçonne N'Djamena d'être un allié des Émirats Arabes Unis, eux-mêmes accusés de soutenir activement les FSR. En mars dernier, le Soudan a bloqué l'aide humanitaire venue du Tchad car, selon l'armée, des munitions destinées aux forces de soutien rapide y transiteraient. De juin à septembre 2023, une centaine d'avions cargo ont relié Abu Dhabi à l'est tchadien. Mais le Tchad a toujours nié être impliqué dans ce conflit.
Les explications de Guilhem Fabry sur la radio du Monde. 84 députés sur un total de 167 à Madagascar. La coalition bâtie autour du président Radzoen décroche donc d'un cheveu la majorité absolue à l'Assemblée nationale au terme des législatives du 29 mai. La haute cour constitutionnelle a en effet publié cette semaine les résultats définitifs en rejetant les recours de l'opposition mais en faisant droit au recours du camp présidentiel et en lui réattribuant ainsi trois districts supplémentaires qui ont fait la différence. On note que les indépendants sont bien représentés dans cette Assemblée, 51 élus au total. Au Sénégal, toujours pas de déclaration politique, de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, plus de trois mois maintenant après sa nomination. Dans une communication parue hier, le Premier ministre justifie ce retard par des incohérences dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le rôle de Premier ministre, je vous le rappelle, qui avait été supprimé en 2019 par Macky Sall avant d'être rétabli en 2021. Et le règlement n'a toujours pas été mis à jour depuis. Un mot également sur cette manifestation avortée hier au Burkina Faso. C'est la coordination nationale des organisations des associations de la veille citoyenne qui avait appelé à manifester devant l'ambassade de Ouagadougou, l'ambassade de France. Le but, c'était demander à ce que l'emprise française soit déplacée ailleurs dans la capitale Ouagadougou. Tentative avortée car la manifestation a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. RFI, votre matinale continue et c'est avec Julien Coquel-Rohem. Excellente matinée à tous.